Comment ça va? Bienvenue dans le Pit Stop. Denis Gravel qui est en place. Pascal qui est là. Tu es en forme?
Oui!
Oui! Sir. Sur la route, ça va bien?
Ben, il y avait un accident il y a peut-être une heure. Yann Charest Est, il y avait fermeture complète là, pour l'autoroute Robert-Bourassa Nord. Là. Et ce qu'on sait, c'est que ça s'est quand même beaucoup amélioré dans les... Excusez-moi. Il y a un auditeur qui m'envoie une photo puis ça s'est littéralement bien amélioré dans les deux dernières minutes. Ça passe très bien. Partiellement entravé, vu qu'il y avait un accident en cours. On termine tout ça, mais ça passe maintenant. Vous n'allez pas avoir à attendre.
Il y a quoi que ce soit sur la route, les amis? 1-418-971-1021, c'est le numéro de téléphone pour nous texter si c'est possible, bien entendu. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. Denis Gravel, es-tu préparé pour sa fin de semaine?
Oui! Oui, bien du hockey de jeunes, du hockey d'adultes à la TV. Des inquiétudes, je regardais l'affiche de notre gardien de but numéro 1 à Boston, puis on va se mettre à parler de goalers aussi, nous autres, les amateurs des Bruins. Tu sais, notre gros goaler qu'on a signé avec le gros contrat, là, Jeremy Swayman.
Ça marche pas.
Ben là, c'est 3,35 buts accordés par match, une moyenne de 0,888 et plus de défaites que de victoires.
À ouais. place de saigner du nez en t'entendant avec les statistiques, est-ce que c'est quelqu'un qui croule sous la pression? Ou...
Ben, c'est la première année où Jeremy Swayman garde autant de matchs. Parce que l'an passé, Linus Ullmark et Swayman se partageaient à peu près 50% des matchs chacun. Là, avec Korpisalo puis avec le contrat qu'on a donné à Swayman, je pense qu'on lui a donné le devant du filet, puis il l'avait demandé aussi. Faut comprendre aussi que c'est un début de saison très difficile, pas seulement pour le gardien des Bruins, mais pour les Bruins dans leur ensemble. Il y en a qui se demandent si Jim Montgomery sera pas le prochain entraîneur dans la Ligue nationale de hockey à perdre son emploi. Puis cette saison-là des Bruins, réalistement, ça fait 3 ans que tout le monde l'attend. Là. C'est les saisons qui ont été au-dessus de leur tête, particulièrement la dernière, avec l'absence de Patrice Bergeron. C'était plus ça l'anomalie que ce qui se passe présentement à Boston. Là,
il reste Brad Marchand, là, mais Patrice
il
Bergeron...
Il a ralenti Brad Marchand. Là,
il reste... Tu sais, Patrice Bergeron, c'était le cœur et l'âme de cette équipe-là. Là.
Oui, oui, oui. Je pense que de perdre successivement Zdeno Chara et Patrice Bergeron, c'était deux gros leaders. Brad Marchand a steppé up, autant au niveau du leadership qu'au niveau du talent sur la glace. Mais là, il y a eu des opérations. Je pense qu'il y en a eu deux, peut-être même trois dans le courant de l'été, là, des opérations. Ça paraît. Il est ralenti. Il n'a pas les mêmes réflexes. C'est plus le même joueur, puis c'est malheureux.
Ah, écoute, on a nos problèmes, nous autres aussi, à Montréal. Défaite hier. Samuel Montembeau qui a bien gardé les buts hier, mais on a besoin d'un deuxième bon gardien. Puis je regardais Fleury, là, qui était sur le banc du Wild, puis ça ferait un bon deuxième. Là.
Penses-tu qu'il y aurait le goût?
En fin de carrière, peut-être. Mais comme Jeff disait, il est bien là-bas, avec toute sa famille et tout. Ben, je sais pas. C'est peut-être moi qui rêve un jour qu'on puisse avoir ce genre de joueur-là à Montréal.
Mais là, on peut être solidaire parce qu'on vit les mêmes affaires. Le Canadien a perdu 3-0. Les Bruins ont perdu 7-2. Tout va bien.
Mais les Bruins, ils sont toujours capables de se replacer. T'sais. Ça n'a jamais été une équipe qui repêchait au premier rang. Ils ont tout le temps été capables d'avoir des super de belles saisons puis souvent d'aspirer des fois aux plus grands honneurs, de rêver d'y aspirer du moins. Tandis que le Canadien, là, on est en reconstruction. Ça doit passer par une série de défaites pour qu'on puisse encore avoir des premiers choix au repêchage. J'espère juste que ça va fonctionner parce qu'il me semble que les amateurs ne sont pas très bien desservis. Hey, on parle d'un personnage qu'on a eu en commun pendant quelques années, Marteau Napoli, qui est une maudite bonne personne. Là. Quiconque a déjà croisé ce gars-là peut savoir que Marteau... Des fois, c'est pas toujours évident, mais à l'intérieur, il est très sensible.
un coup, la carapace percée, de quelque façon que ce soit, c'est un homme au cœur tendre. Puis ce qui lui arrive présentement, si c'était pas si triste, ça serait tellement drôle et tellement ridicule.
Oui.
Parce que,
mais ça en dit beaucoup sur le Québec. Ça fait 21 ans, Denis, qu'il est parti sa collecte de bonbons, de vêtements, de jouets pour les enfants à Noël.
Puis il n'a jamais lâché. Jamais. Dans la vie, tu as des bonnes, tu as des moins bonnes années. Marteau, j'imagine, a eu des bonnes puis des moins bonnes années. Mais bon an, mal an, il faisait sa collecte. Puis c'était quelque chose qui a toujours mobilisé les gens. Puis c'était un rare événement populaire et rassembleur pour venir en aide.
Peu importe les radios. Souvent, il y a de la compétition, là, mais moi, d'entendre que sa collègue, peu importe où lui se trouvait, où il travaillait à ce moment-là...
C'était Marteau et ses typos.
Exactement. Puis ses amis ou ses ex-collègues en parlaient quand
tout le
même.
Temps.
Parce que justement... C'était rassembleur, mais ça aidait tellement de monde. C'était tellement fait avec de l'humilité. Là. Moi, c'est une des premières collectes dont mon père m'a parlé quand j'étais jeune. « Hey, on va faire ça, on va aller magasiner, on va ci, on va ça, pour Marteau et ses petits pauvres. »
Pour trouver un problème, dans une opération comme ça, faut que tu sois rempli de malice ou rempli de stupidité.
Ouais.
Ben, il y a des gens qui ont trouvé des problèmes.
Marteau vient du Bas-Saint-Laurent. Et il y a des signataires qui viennent de son propre coin de pays qui ont décidé de lui envoyer une lettre qui a pas mal fait en sorte que ça ébranlé un peu Marteau et son organisation.
Et comment donc?
Selon ces gens-là, l'expression « petit pauvre » dans Marteau et ses petits pauvres, c'est une formule qui peut s'avérer blessante. Le fameux « ti » serait également un préfixe réducteur dans notre langage. On salue les petites personnes. Enfin, le groupe affirme aussi que le mot « pauvre » est porteur de beaucoup de stigmates. Donc là, tu comprends que Marteau est un peu secoué de tout ça. Il a commencé cette aventure-là, il y a 21 ans, avec deux sacs de bonbons, de vêtements et de jouets. Puis maintenant, bien, il remplit des camions depuis plusieurs années. Puis il dit, en résumé, le poids des mots doit être considéré lorsqu'on œuvre auprès des gens qui vivent des préjugés.
Le mot pauvre a le stigmate de la pauvreté.
Ouais.
Parce que être pauvre, c'est pas avoir d'argent. Être pauvre, c'est être dans le besoin. On peut plus parler de pauvre, là. Puis ça, c'est un mot qui est rendu à l'index, ça, pauvre.
Même ça
pauvreté.
Peut irriter. Même ça peut irriter. Mettons que ça irrite, là. Ouais. Après ça, tu te mets à réfléchir, puis tu dis, ouais. Ça mérite, mais regarde le bien que ça fait.
C'est un trademark.
Le moment où je suis irrité, je peux-tu comme le remettre un peu en terre?
Moi, je veux garder l'utilisation du mot pauvre à plein de sauces, comme par exemple, les auteurs de cette lettre sont très pauvres d'esprit.
Puis tu sais, c'est pas Aline, Jean Eude puis Alphonse qui ont signé ça. Là. C'est des gens qui sont bien en vue, qui sont au C3S dans ce secteur-là. Puis Marteau a décidé tout simplement qu'il allait peut-être mettre de côté sa campagne. Moi, je connais un peu l'individu. Je pense qu'il va rebondir dans les prochaines secondes, les prochaines minutes, puis il va dire « De la merde, vous êtes des imbéciles, puis c'est pas vrai que les enfants vont payer parce que vous êtes des imbéciles. On va la faire quand même, la collègue de Marteau et ses petits pauvres. »
Il y a eu une réaction très émotive, puis en même temps, j'essaie de me mettre à sa place, puis probablement que j'aurais réagi de la même façon, parce que c'est énormément de travail. C'est beaucoup de gens qui donnent leur temps de façon bénévole, année après année. La dernière chose que tu t'attends, quand tu fais ce don-là à ta collectivité, c'est de te faire chier par ta collectivité. Fait que c'est sûr que ça vient te chercher par en dessous. Tu fais des choses que les gens autour de toi font pas. Tu réussis à ramasser des dons que les autres autour de toi sont pas capables. Puis t'as des faiseux puis des penseux qui ont décidé que leur objectif du temps des fêtes, c'était de te faire prendre conscience que l'expression « petit pauvre », savez-vous quoi? Il y a des expressions comme ça, puis je veux pas me lancer dans des exemples précis, là, mais quand on reprend possession de certains termes, de certaines expressions, ça devient autre chose, ça devient quelque chose de mieux, ça devient une insulte que tu ne peux plus utiliser. Marteau, quand il a décidé d'appeler ça ses petits pauvres, il savait ce qu'il faisait, et ça a passé le test du temps. Quelqu'un qui essaye de changer ça 21 ans, 22 ans plus tard, c'est quelqu'un qui comprend rien à rien. J'espère que ces gens-là vont écrire une lettre d'excuse maintenant que leurs sottises sont rendues virales à grandeur de la province, puis qu'ils vont faire des dons significatifs à la campagne de Marteau. Et c'est petit pauvre!
Es-tu fâché, Denis?
Je suis en joie le vert. La stupidité humaine, des fois, ça me donne des boutons.
D'habitude, je mets Denis à zéro là, pour ce qui est du son. Là. Oui. Puis là, j'ai été obligé de le descendre en bas de ça.
Mais il aurait été.
On le dira pas, on va le crier. Des petits pauvres! Marteau
des gens...
et ses petits pauvres!
C'est des gens qui sont bien en vue dans le secteur de Rivière-du-Loup, mais hier, ils sont revenus. Donc, le comité de lutte aux préjugés de Rivière-du-Loup, la Corporation du développement communautaire des Grandes Marées dans le secteur de Rivière-du-Loup, ont réécrit un autre communiqué pour répéter qu'ils souhaitaient amorcer la conversation avec Marteau concernant le nom de sa collègue.
Marteau, on
ces
te
gens-là,
demande...
c'est des gens qui n'ont jamais rien crissé de leur vie.
Voilà.
On leur donne des tâches à accomplir, puis là, ils cherchent des problèmes, puis ils créent des problèmes à des enfants qui, à chaque année, étaient très heureux d'avoir des jouets, puis chaque année, étaient très heureux d'avoir des bonbons plutôt que que des cannes de conserve.
Mais c'est quoi leur demande là-dedans, à part de crier préjudice?
Non.
Je comprends. Mais mettons ça, là. Vraiment, dans leur vie, y a-tu eu des impacts ou y a-tu eu des impacts dans la vie de quelqu'un? Parce que...
Le seul impact, c'est qu'il y a des enfants qui mangent à Noël grâce à Marteau. C'est le seul impact depuis 22 ans. C'est pas un impact négatif, ça.
Y a-tu eu une baisse de gens qui demandaient des dons de la part de la collègue de Marteau parce qu'ils se disaient hey, « Nous, on veut pas être étiquetés à ces petits pauvres-là qui
non.
sont pointés du... » Parce que là, on pourrait réfléchir
j'ai,
en gang.
J'ai la théorie inverse.
Vas-y.
Je pense que ça dérange le fait qu'une campagne à cette sauce-là et à cette couleur-là ait du succès année après année. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a de la malveillance. On aimerait ça que tout soit fait dans le cadre puis que tout soit fait beau. Marceau, tu fais de la radio, je fais de la radio, on fait de la radio, Pascal. S'il y a une chose qui est difficile à trouver, c'est sa couleur. Marteau, c'est sa couleur qui fait en sorte qu'il nourrit sa famille depuis qu'il fait de la radio. Tu y enlèves sa couleur à Marteau, il ne reste plus rien. Ces gens-là demandent à Marteau d'enlever la couleur à Marteau dans ce qu'il fait de mieux pour la société.
Et qu'il ramasser a fait par
de l'argent
lui-même.
Et de la bouffe pour des petits pauvres.
Ouais, depuis des années.
Moi, je dirais à Marteau de faire fi de cette lettre légale-là, puisque c'est vraiment même pas son vrai nom.
En partant, tu peux pas poursuivre
je
un
suis
faux
pas
nom.
Visé.
Ben oui. Puis c'est, puis...
Essaye de poursuivre Marteau Napoli. Il existe même pas.
Mais je pense, légalement. Je pense qu'il peut répondre très habilement à ces gens-là, leur dire poliment d'aller se faire voir, puis juste continuer ses affaires exactement comme il fait avec succès depuis,
hey, je
depuis
donnerais
plus
même pas
d'une
l'attention.
Vingtaine d'années.
Tu sais, tu dis, moi, je leur dirais d'aller se faire voir.
Là. Ah, il a bien fait. Je pense qu'il fait bien de le montrer.
Oui.
Parce que n'importe qui lit cette lettre-là part à rire, puis après ça, ben, t'as le goût de brailler.
De le montrer, ben, moi, je passerais mon chemin, parce qu'ils sont sûrement contents aussi, là, de quelqu'un est fâché parce qu'eux revendiquent quelque chose. Tu donnes de l'attention à du monde qui en veulent. Parce que pour moi, cette requête-là, c'est juste une demande d'attention. Sinon, je me l'explique très mal.
Ah non, ils ont vraiment de l'air épais. Hey, Denis, on en a parlé peut-être un peu hier. Je sais pas, j'ai pas eu la chance de t'entendre là-dessus dans le retour, mais le magasin Benjo qui ferme.
Ouais.
Puis, tu sais, j'ai lu l'article où c'est Geneviève Marcon qui donnait une entrevue.
Oui. La fondatrice de Benjo.
Elle a dit, sans nécessairement le dire, tu sais, ça, c'est. Dis-moi la raison pour laquelle tu fermes ton magasin sans me le dire. Elle a dit, il y a beaucoup d'itinérance, mais c'est pas à cause de ça. Nous, c'est plus le vol à l'interne, blablabla, blablabla. Bla, bla.
Ben, l'agressivité, la criminalité. Pis,
parfait.
Je l'achète, moi, la nuance entre les deux, par exemple.
Oui, OK.
Parce que c'est ce qui a changé le plus.
Mais la solution, c'est quoi, Denis?
Ben, la solution, c'est moins d'itinérance.
La solution,
c'est itinérance zéro, Yann.
On fait ça comment? Parce que là, Benjo s'en va. Ouais. À mes yeux, à moi, c'est pour les mauvaises raisons, parce que ça ne devrait pas arriver qu'une belle boutique comme ça ferme. Tous les enfants qui ont été là ont été éblouis.
C'est un très mauvais son de cloche pour le secteur, parce que c'est des gens qui croyaient à la mixité dans Saint-Roch puis qui voulaient en faire partie.
Puis, tu sais, ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent pas être qualifiés d'insensibles, mais c'est pas mal. Ça, les itinérants qui campent dans l'entrée, les familles qui se promènent autour avec les enfants et tout ça, c'est un peu malsain. Des gens qui sont en train de consommer ou qui sont en état de toxicité extrême ou complètement sous. Tu veux pas mélanger tes clients avec cette clientèle-là. C'est pas être insensible, c'est la vie. Moi, je veux pas que mes enfants soient constamment à côté de gens qui crient au meurtre, qui puissent se piquer ou qui puissent encore chier pendant que moi, j'essaie de rentrer dans la boutique.
Tu sais, c'était relativement sous contrôle il y a 10 ans. On voyait peut-être plus le romantisme du choix d'être un itinérant et ainsi de suite. Mais tu sais, l'agressivité a monté. Sais-tu que les problèmes de toxicomanie sont plus graves? Sais-tu que les gens sont juste plus violents et plus agressifs? On le constate un peu partout. Les gens ne savent plus vivre au restaurant, au cinéma, dans les spectacles et ainsi de suite. Fait que c'est une chaîne logique, ça. C'est un effet domino. Si on est plus agressif dans notre quotidien, ben c'est normal que les itinérants qui sont aux prises avec des défis autrement plus grands soient plus agressifs eux autres aussi. Puis je pense que c'est ça qui a changé dans Saint-Roch, c'est que maintenant, les itinérants sont pas 3-4 roulés en boule sur le pavé de l'église. Là, ils se promènent, ils font du bruit, ils sont légitimement épeurants pour quelqu'un qui prend une marche à toute heure du jour ou de la nuit. Puis ça a changé le climat, ça crée une tension qui n'était pas là avant, puis ça devient un spot, c'est plate à dire, mais c'est pas un spot familial. J'ai pas le goût, moi, d'aller me promener dans Saint-Roch avec mes enfants. Là.
Ouais. T'sais? Mais tu sais, moi, je le blond, je l'aime bien, le blond, là. Ça veut dire que t'as raison d'insolvabilité, Steph. Puis tu sais, il me le dit souvent, tu sais, Yann, c'est dur de faire des affaires dans le centre-ville de Québec. Mm-hmm. Il y a tout le temps des affaires. À un moment donné, il s'est fait casser sa vitrine en bas pour aucune raison. Puis c'est des grosses vitrines, Pascal. C'est plusieurs milliers de dollars remplacer ça, là. Puis il s'en fait péter une chaque année.
T'as bien beau avoir des assurances, ça monte aussi.
Mais à un moment donné, c'est fatigant. Puis moi, je suis né au centre-ville de Québec. J'ai vu le centre-ville évoluer. Puis bien qu'on n'a pas aimé Jean-Paul Lallier, tu sais, il a fait des choses qui étaient relativement belles au centre-ville de Québec. Des entreprises qui sont sont arrivés. On a enlevé le toit du Maïs Saint-Roch. Moi, je passais régulièrement dans le Maïs Saint-Roch, puis on avait cette problématique-là de gens qui étaient itinérants puis qui restaient dans le Maïs. Puis là, ben, les gens qui avaient des boutiques étaient plus ou moins à l'aise parce qu'ils entendaient crier et tout ça. C'est comme si on, c'est la roue qui tourne. On revient à ça maintenant. Ouais. C'est que les itinérants sont encore sur Saint-Joseph, alors qu'on veut faire un endroit qui est convivial, tant pour eux, mais pour les familles aussi, puis les gens qui veulent aller magasiner là.
Je pense que ce qui tenait l'équilibre dans les dernières années, c'est l'Aube-Rivière. L'ancien emplacement de l'Aube-Rivière, c'était l'endroit idéal pour faire en sorte que les sans-abri, les itinérants et les problématiques reliées aux itinérants, tu les écartais juste assez du secteur commercial de Saint-Roch puis de Saint-Joseph. T'es éloignais juste assez de la gare du Palais puis t'es éloigné juste assez du Petit Champlain. T'avais l'Aube-Rivière, t'avais un terrain vague à l'arrière, t'as une moitié de parc en avant puis un parking que les gens utilisent pas ou à peu près pas, ce qui fait en sorte que t'avais un secteur qui est pas un secteur de vie commerciale où se retrouvait l'essentiel des itinérants à problème et leurs problématiques. Les problématiques restaient là. Les policiers allaient encadrer ça et ainsi de suite, mais on avait trouvé un genre de no man's land où on nuisait moins au commerce. Évidemment, une fois de temps en temps, il y en a un qui allait péter une fenêtre. Mais je pense que n'importe qui est un habitué de Saint-Roch va te dire, oui, quand l'Aube-Rivière était là, on avait beaucoup moins de problèmes. Là, tu as eu l'explosion des itinérants, tu as eu le déménagement de l'Aube-Rivière, ce building-là, il a été condamné, puis ça a l'air qu'il n'y avait plus rien à faire avec. Je trouve ça malheureux, mais ça a ramené la problématique en plein cœur de Saint-Joseph, puis on voit les problèmes et on voit les conséquences. Il y a beaucoup de commerçants qui ont profité d'opportunités commerciales pour s'installer à Saint-Roch. Pas Benjo. Benjo, il croyait à la mixicité. Ça a fait partie des premiers qui se sont dit, nous autres, on s'installe là pour faire un statement, pour donner l'exemple. Si ces gens-là s'en vont, c'est un très mauvais signe pour l'avenir du quartier, c'est sûr.
Est-ce que de regrouper tous les services à la même place, c'est une bonne chose?
Si tu trouves le bon spot, encore une fois, il faut que tu trouves le no man's land qui fait en sorte que la vie commerciale, la vie touristique et la vie des gens au quotidien n'est pas trop entravée. Puis l'idée, c'est pas de cacher ça en dessous du tapis, mais c'est que chacun ait son petit bout de territoire pour permettre aux gens de continuer de vaquer à leurs occupations.
Parce que quand l'Aube-Rivière était à l'ancien emplacement, il y avait la continuité de Saint-Vallier ou le comptoir Emmaüs et tout ça. Puis il y avait un petit parc qui était là, puis il se tenait là, puis il était à l'abri du vent, puis il était tout en gang dans ce secteur-là.
C'est
là,
un spot idéal.
Mais là, j'aimerais ça savoir les débuts. Tu sais, les débuts de l'Aube-Rivière, là, quand c'était placé au premier emplacement, ça s'est passé comment? Probablement qu'il y avait moins d'itinérance, là, on s'entend, fait que c'était peut-être pas la même problématique, mais y a-tu eu une adaptation? Comment est-ce qu'on s'est adapté? Comment est-ce qu'on a parlé aux commerçants autour? Parce que je me dis qu'avec le temps, il y a sûrement quelque chose qui s'est cristallisé dans les soins qu'on apportait, les endroits où on était capable de savoir où ils se tenaient, ces personnes-là en situation d'itinérance. Parce que s'il fallait déménager, si la bâtisse était désuète ou plus assez grande ou peu importe, c'était quoi le spot par excellence? Y en aurait-tu réellement eu un? Puis là, en ce moment, on est avec des catastrophes économiques. Moi, j'appelle ça une catastrophe économique. Quand une institution comme Benjo, puis ce qu'ils clament, c'est ça, déménage ou ferme, effectivement, c'est quoi l'effet domino qui peut s'en suivre? Mais c'est pas juste au niveau de l'économie. Il y a beaucoup de gens qui habitent aussi, qui trouvent ça difficile. Quand tu as vu Saint-Roch XP là, cette année, là, il y avait un malaise des festivaliers qui trippaient aller là. La mixité est super le fun, mais tu as un gros malaise à tripper avec tes chums, boire de la conso, être dans les rues, puis de mettre ça d'en face d'une personne en situation d'itinérance qui vit avec la toxicomanie. Il y a comme différents malaises à travers l'année. Comment est-ce qu'on réussit?
Parce que je peux te parler des années 80, je peux te parler des années 90. Moi, je me souviens du Maïs, je me souviens de l'ancienne Aube-Rivière. On passait régulièrement dans ce secteur-là. Puis il était tout le temps, puis il y en avait moins qu'aujourd'hui. Là. Le maire Marchand l'a dit.
Ah oui.
En 4 ans, on est passé de 600 itinérants à 1000.
Fait que, il y a quelque chose là, on s'entend aussi, là, à travers Namon.
Il se tenait principalement dans le Maïs-Saint-Roch, à ma souvenance à moi. Là. 1980-1990, c'était le Maïs-Saint-Roch fermé. Mm-hmm. Il y avait
les... petit?
Il y avait le tunnel. Ben oui, j'étais petit.
T'avais-tu peur?
Non, ben non, mais c'était mes voisins. Je savais pas que c'était dangereux. T'es un enfant. Il y avait aussi, Denis, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un tunnel souterrain qui rejoignait le Mail-Saint-Roch jusqu'à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Puis il y avait des petits restaurants et des petites boutiques. Là. Ils se tenaient aussi dans ce secteur-là. Je sais pas si ça a été bouché en dessous de Saint-Joseph, mais il y a un tunnel en dessous de Saint-Joseph qui existe.
Je pense que les rats ont repris possession de tout ça dans les dernières années.
Ça, puis du Colisée.
Je suis en train de lire l'historique de l'Aube-Rivière. Ah, ça a été fondé en 1983 sur la rue Saint-Paul. Puis tu nous parlais du Mail-Saint-Roch. C'est à partir du moment où on a enlevé le toit au début des années 2000 qu'on a ouvert le centre de jour.
Donc, il y avait un besoin là.
Il y avait un besoin. Puis le fait de démanteler le Mail, ça a créé... ça a déplacé le besoin, en fait. Ça a toujours été une problématique qui était inhérente au quartier Saint-Roch.
Il y avait le sous-sol aussi de l'église sur Saint-Joseph,
oui,
qui servait beaucoup aux itinérants, puis il y avait des organismes là, mais c'était pas aussi pire que ce qu'on constate aujourd'hui. Je suis tannant, mais moi, ces gens-là, je les déplacerais en raison des services, tout à Robert-Giffard. Avec les médecins qui sont là, avec les infirmières qui sont là, avec les éducateurs spécialisés qui peuvent être là. Tout ça regroupé au même endroit. Puis tu sais quoi, je sais que c'est plate parce que là, l'Aube-Rivière a un super de bel emplacement, mais je crisserais l'Aube-Rivière là aussi.
Puis les critères que ça prend, ben je suis obligé de te dire que tu as raison. Je veux dire, le secteur répond à tous ces critères-là. Puis tu peux même rajouter que tu as un secteur idéal après ça pour tranquillement favoriser la réinsertion de ceux qui sont prêts à retourner en société avec des blocs appartements qui seraient peut-être prêts, du logement social qui serait prêt à les accueillir dans le secteur de Canardière à côté de Robert Giffard. T'sais. Tu réglerais beaucoup de problèmes. Mais c'est sûr, j'imagine qu'il y a des rénos à faire. J'imagine qu'il faut que tu prennes peut-être 22 organismes puis que tu essaies d'en faire 10 ou 11 gros max avec ça puis que tu dises, ben là, il faut que tout le monde travaille ensemble. Tu sais, moins d'organismes, meilleure structure, plus d'efficacité, puis notre quartier général, il est là. Ça prend un maire avec une vision pour ça. Est-ce que dans une campagne électorale, il y a quelqu'un qui va nous arriver avec une solution? Là? Le maire Marchand a eu 4 ans pour observer ce qui se passe sur le terrain. Il y a des gens qui veulent se présenter contre. C'est le problème numéro 1 présentement à Québec. C'est la sécurité, c'est relié à tout ce qui se passe au niveau criminel, puis c'est relié au fait que l'itinérance a explosé puis qu'on ne sait plus quoi faire avec dans Saint-Roch. On a perdu Benjo, les amis.
Puis on voit souvent le problème quand il est là, puis on souhaite à le régler quand il est apparent,
quand
il est problématique. C'est justement un problème problématique.
Puis ça, il y a des organismes qui vont te le dire. Le problème, il fallait le régler pendant qu'il était en contrôle.
Ouais.
Il
ne
fallait pas attendre cette situation-là.
Fait qu'il y a clairement quelque chose de social qui se passe autant ailleurs, mais à Québec, avant qu'une personne se retrouve dans la rue. Puis comment est-ce qu'on est capable de mettre le doigt là-dessus, puis de mettre encore plus d'énergie, pas nécessairement juste de l'argent là-dedans?
Pis c'est top. T'sais, nous autres, on s'assume, pis on est capable de donner nos opinions, même si on sait que ça se peut que ça soit reçu de travers en disant « Hey, vous êtes donc bien insensible. » Non, au contraire, on l'est sensible. Pis c'est les raisons pour lesquelles on émet des hypothèses, puis on essaie de donner des idées aux gens qui nous gouvernent. Mais je suis pas sûr qu'un politicien entrerait là-dedans parce qu'il pourrait se faire effectivement qualifier d'être insensible à la cause. Puis là, ben, mais on sait bien, hein, ils préfèrent les entreprises à nos itinérants alors que ça n'a aucun lien. Ça prend beaucoup de courage politique pour faire ça, Denis, comme tu l'as dit.
Ça prend des alliés aussi. T'sais, imagine-toi un candidat à la mairie de Québec qui se présente avec les dirigeants d'organismes, les gens de la bouchée généreuse, mettons, puis que ces gens-là proposent une solution où ils ont été consultés puis ils pensent que c'est la meilleure alternative. Souvent, le politicien, Yann, là, on dirait qu'il veut s'éloigner de la populace. T'sais. Il y a lui, il y a ses conseillers, il y a son attaché de presse, puis il amène la solution. Il me semble que la solution est pas mal plus vendeuse et vendable si tu as des gens du milieu qui en font partie, puis qui sont à côté de toi pour dire « Voici la meilleure solution pour nous autres sur le terrain. Va te chercher des alliés, puis surtout, écoute-les. » Moi, je suis pas mal sûr qu'il y a un paquet de solutions, Yann, qui traînent à terre. Puis nous autres, on est d'un studio de radio, puis on call des shots, là. Mais ceux qui sont dans la rue, puis qui sont dans la rue depuis 10, 15, 20 ans, puis qui s'occupent des plus poqués de la société, peut-être eux autres qui ont des bouts de solutions qu'il faut mettre ensemble. Mais il faut aller leur parler, puis il faut aller voir pour ça, tu sais.
Exact. Hey, dernier sujet, mon ami. Conflit de travail à Poste Canada. Les facteurs sont-tu au courant que probablement qu'on s'en rendra probablement même pas compte? Moi, je fais qu'ils passeront pas pendant un certain temps.
Veux-tu que je te dise?
Dis la vérité.
C'est où que ça cause une panique présentement?
C'est où?
La communauté des collectionneurs de vinyle. Eux autres, je peux te dire, sont en panique, en tabarnache. Là, ça.
Pourquoi vous pensez que ça va pas se sentir un peu parce avec moi, le Black Friday qui s'en vient, ben, ouais, avec les
moi,
commandes
par...
Parce que FedEx, pour vous, c'est juste ça?
Je vais à la malle aux 2-3 semaines. Oui. Puis les colis que je commande, ils arrivent directement chez nous à la porte. Ouais. C'est pas le facteur qui vient chez nous.
Je te dirais que 85 % de ce que je reçois,
c'est de la pub.
Pas Post Canada qui me l'amène.
Ouais.
Tu sais, puis c'est un peu, tu sais, on consomme tout pareil, là, mm-hmm. Je veux dire. Amazon, ils viennent te le porter à la porte, puis ils passent pas par Post Canada, tu sais. Fait que, on va être nombreux à ne pas être au courant qu'il y a une grève chez Poste Canada, c'est la vérité.
Mais est-ce qu'il y a un autre moyen pour les facteurs, que ce soit des facteurs en unité mobile ou encore les facteurs à pied, là, y aurait-tu un autre moyen d'essayer de se faire entendre par le gouvernement plutôt que de prendre la population entre guillemets en otage? Parce que je vous le dis, là, 90 % des gens... Ils s'en tireront pratiquement pas.
Demande aux gens, dis aux gens que les timbres ne sont plus nécessaires. Puis à partir du moment où l'argent ne rentre plus au gouvernement, ben, t'as un moyen de pression.
Très bon.
C'est génial.
Puis les gens vont être contents, ils n'achèteront plus de timbres puis ils se feront plus chier avec ça.
Faut juste convaincre les machines de ne pas faire le job. C'est les machines qui calculent
c'est
tout
ça. C'est
ça,
je comprends que c'est complexe. Là,
mais il y a peut-être des choses qu'on voit pas. C'est 88-971-102, est-ce que vous, ça va vous impacter? Y a-tu du monde en entreprise? Parce que c'est vrai que nous, on est plus clients particuliers.
Puis même nos factures, en général, on est très nombreux à faire ça de façon maintenant virtuelle, ouais, sans recevoir aucun bill par la poste, ouais, là, ou à peu près.
On nous dit qu'il y a plus de courriers qu'on pense. Il y en a qui disent, moi... Par Poste Canada, je fais livrer Amazon au point de chute. Je trosse pas mes voisins, donc Poste Canada, c'est bon pour moi.
C'est le fun, ça.
Je trosse
mes voisins.
Mais quand t'habites au centre-ville, là, ouais, tu peux pas recevoir ça sur ton perron dans l'espoir que ça disparaisse
non
pas.
Non. Puis même dans un bloc, là.
Tu te l'as fait faire?
Non. Mais je veux pas dire. Moi, c'est
son quelle adresse?
Smart. Mais j'ai toujours eu peur depuis, là.
OK. Là, on me dit qu'en région, c'est pas mal tout Poste Canada qui s'occupe des colis, Denis.
Ouais.
Fait que tu vois, à Québec, nous autres, c'est pas nécessairement tout le temps Poste Canada.
C'est un timing difficile parce que Noël s'en vient, puis il y a des gens qui ont commandé des cadeaux, entre autres choses.
Les gens qui parlent de leur passeport, puis eux sont comme vraiment plus tristes.
Oui, ça, c'est pas super. Les gens qui voulaient lever le fly, puis qui attendent leur passeport. Il y a bien du monde qui stresse, finalement.
est-ce qu'on en sait plus sur ce qu'ils demandent ou ils gardent encore ça pour eux d'un bord comme de l'autre?
Écoute, moi, j'ai pas lu grand-chose là-dessus aujourd'hui, je te mentirai pas, mais en même temps, faut pas que tu te fasses d'illusions, là. Les postes, c'est pas autant important que ça l'a déjà été et c'est appelé à prendre de moins en moins d'importance. Faut que les employés soient conscients de ça aussi. Puis faut que les dirigeants commencent à enligner Poste Canada vers ça va être quoi l'avenir. Puis ça prend déjà beaucoup moins de place qu'avant. C'est beaucoup moins nécessaire qu'avant. Tu peux pas garder la même structure qu'avant. C'est juste logique.
Ce qui est demandé, Yannick, là, entre autres, c'est pas trop de fermeture de comptoirs, parce qu'on a vu qu'en région, il y en a plusieurs qui allaient fermer. Ça inquiétait un peu. Les salaires, c'est là, les conditions de travail, le droit à un départ à la retraite. On met ça en parenthèse là, du côté du syndicat, mais... Dans la dignité, là-dessus, il manque un peu d'informations.
Un départ à la retraite dans la dignité, là, ce serait 48 à peu près, Denis.
Oui, je me sentirais digne, moi, de partir à la retraite dans 2 ans.
Puis la diversification des services offerts par le service postal public, justement, pour que ça reste place pendant plusieurs années.
Manon qui nous écrit, « Salut, je travaille à un endroit où je dois délivrer des certificats très importants. » on envoie ça par la poste. Donc, pour nous autres, dans notre organisme, ça va très mal depuis ce matin. Là. Je suis livreur d'une compagnie X qui, présentement, je fais environ 100 livraisons par jour. On prévoit faire entre 150 et 170 livraisons par jour si le conflit dure.
C'est sûr. C'est sûr que pour eux autres, ça va être une mine d'or là, parce qu'on est dans la période où ils se livrent le plus de trucs de l'année.
Puis attends le Black Friday.
Il y a quelqu'un qui dit « mon passeport ».
Ouais, ça, c'est chien, là. Je sais pas c'est quoi l'alternative.
Aller
dans
le chercher
ce
direct, là-bas.
Ouais. Ouais.
Moi, c'est ce que j'avais fait. Okay. Là. J'avais été chercher direct là-bas parce que j'avais demandé un passeport très rapide. Là. C'était un voyage qu'on n'avait pas prévu, mm-hmm, puis j'avais pas le temps de faire toutes les démarches. Puis ça avait bien fonctionné. Ça fait déjà quelques années.
Prenez-le pour 10 ans en passant si vous le faites. Là.
Oui.
Ben, moi, de casse-tête.
Ouais. On te pose la question, Denis, qu'est-ce que Marchand t'a dit par rapport au projet d'itinérance zéro avec Bruno Marchand?
Ben, il reconnaît que c'était une promesse qui ne réalisera pas. Hein? Il dit qu'il y a plein de solutions, qu'il y a plein de sommes investies, mais qu'il faut comprendre que l'explosion du nombre d'itinérants fait en sorte qu'on ne voit peut-être pas ce qui a été mis en œuvre. T'sais, on a parlé cette semaine du projet des mini-maisons. Là, on se demandait c'est combien d'itinérants pour qui ça devient une solution sur les 1000 qu'on a sur le territoire de Québec. On a investi des sommes, on crée du logement social, on essaye de donner aux nombreux organismes, mais on est débordé par le besoin. Ça, c'est la réponse et les explications que le maire Marchand m'a données cette semaine.
OK. Denis, merci.
Hey, thank you.
Un beau week-end. On t'écoute tantôt dans le retour.
Merci.
Bye-bye.
Le garage à Dan.